Comptez les couleurs. Lu par Agnès Ledig et Pierre Rochefort. Prolégomène.
20 juillet 1968. Un ultime cri accompagna la déchirure. Tête dernière. Le reste du corps s'était déjà faufilé entre les chairs tendues. D'abord, une petite paire de fesses molles, tel un sourire en travers de la vulve, qui se mit à grossir à chaque poussée. La femme en gésine travaillait seule. Un vermelin, avait annoncé le vieux médecin qui apprenait encore à ses étudiants les rudiments de la médecine classique. Primum non nocere. Les bébés en siège se laissent cueillir comme des fruits mûrs qui choisissent le moment de tomber entre vos mains. Si vous lui touchez les jambes sous prétexte de l'aider à sortir, il risque de lever les bras in utero en réaction. On vous a appris les conséquences. La tête et les bras ne passeront pas en même temps. Les manœuvres obstétricales qui s'ensuivent ne garantissent jamais l'issue. La nature se débrouille quand on lui fait confiance. Faites confiance à la femme et au bébé, ils savent mieux que nous. Par souci d'asepsie verbale, il adressa ces mots à son interne et à l'étudiante mailloticienne dans le couloir, les obligeant ensuite à garder les bras dans le dos durant la mise au monde, pour honorer la tradition du geste. Pour un vermelin, on accouche sans les mains. Dans les couloirs de la fac de médecine circule une légende universitaire selon laquelle il arriva un jour à ce gynécologue, renommé pour ses pratiques d'enseignement peu protocolaires, de nouer les poignets d'un étudiant trop zélé avec la tubulure d'une perfusion trouvée dans un tiroir du chariot de matériel. En comptant la sage-femme de garde, présente depuis les prémices de la dilatation, ils étaient quatre. Notre chef de service détestait que ces sièges soient une curiosité pour la moitié de l'équipe, quand bien même celle-ci fut merveilleuse. Car ces accouchements-là, pour périlleux qu'ils fussent, laissaient dans le cœur des soignants le souvenir ému d'un instant de pure beauté. Ah, ce moment où les fesses semblent s'envoler et où surgissent soudain les jambes. Puis l'on voit les longs petits pieds encore fripés se poser et prendre appui sur la table installée à la bonne hauteur, quelques centimètres sous le lit d'accouchement, entre les jambes écartées de la mère. Courageuse et attentive, cette dernière écoutait les consignes, pressée de se libérer de cet amas de chair. Il n'était pas encore trésor à ses yeux tant il générait de la douleur. Cette partie d'elle-même n'avait alors connu que le plaisir. Cependant, un autre amour se jouait là, bien plus puissant, inconditionnel, qui donnait à la femme la force d'accepter la souffrance. Quand les bras potelés s'échappèrent du giron vaginal, on annonça à la mère les dernières poussées. Les veilleurs alentour, sans pour autant le dire, savaient qu'au-delà de trois contractions, il faudrait intervenir. Planait sur eux la peur d'une rétention de la tête, qu'un bassin trop étroit pourrait garder, comme un baroud d'honneur à la séparation. Ce genre d'issue imposait des manœuvres précises sans gage de réussite pour sauver le bébé. Le temps alloué serait court, car le cordon, une fois comprimé, serait incapable de perfuser l'enfant d'un sang oxygéné. Troisième poussée, le cri, la déchirure. Et une masse muette dont le silence glaça. C'est un garçon. Les mains de la sage-femme autour du petit corps bleu-rose le posèrent sur le ventre maternel, encore gonflé du souvenir de sa plénitude. La femme en blouse frotta la peau collante et fine avec un linge stérile, dégagea la bouche des glaires accumulées, réchauffa le petit, le stimula. Quelques secondes passèrent, silencieuses, interminables, où l'attente se confondait déjà avec le chagrin de la perte. Cet autre cri fut puissant. Une autre déchirure, l'air, qui envahit des alvéoles 9 mois plissées, grimaçantes de se déployer. On coupa le cordon. En ces années 60, le père était tout juste admis aux côtés de l'épouse. Le reste relevait de l'équipe médicale. Après quelques minutes, la sage-femme reprit le nouveau-né pour l'examiner, le laver, l'habiller et le rendre poupée à des parents heureux. Durant toute la séparation, le petit hurla, comme s'il contenait dans ses cordes vocales toute la misère du monde. Il s'apaisa au contact du sein maternel, secoué encore d'un chagrin sismique dont les répliques s'espacèrent une fois atteint le refuge du sommeil. La mère, dans un état second, ne se souciait plus de son entrejambe. ses bras chantaient plus fort qui tenait son bébé. Le calme revint dans les draps souillés de vie. « Comment allez-vous l'appeler ?» À 800 kilomètres de là, une femme accouchait pour la cinquième fois. Les 6 premiers garçons, dont 2 paires de jumeaux, âgés de 3 à 10 ans, s'étaient rendormis chez leurs grands-parents. Le père ne put être présent. Il avait obtenu de rester en poste dans un régiment fixe le temps de la petite enfance, non loin de sa belle famille, à condition de partir en mission aux quatre coins du monde, parfois pour plusieurs mois. Elle n'avait pas peur. Elle connaissait son corps, les signes du travail, comment y réagir. 2 heures plus tôt, les premières contractions l'avaient réveillée. Elle savait. Le temps de lever les frères, de confier à chacun le petit sac en tissu préparé à l'avance et contenant quelques vêtements pour 3 jours, de les installer dans la voiture et de les déposer chez ses parents à quelques kilomètres du domicile conjugal. La maternité se trouvait ensuite à 20 minutes de route. Elle déclina la proposition paternelle de l'accompagner. À leurs âges, il fallait être 2 pour gérer la progéniture agitée. Elle ne tarda pas à repartir, car les contractions s'étaient rapprochées plus vite que durant les naissances précédentes. Les mises en garde de la sage-femme lors de la dernière consultation lui revinrent à l'esprit. « Ne venez pas seule. Vous dilatez comme une fleur sous le soleil. Ce 5e accouchement sera rapide. » Elle se gara devant la maternité et confia les clés dans un soupir au surveillant de nuit. Hormis l'ascenseur, tout alla ensuite très vite. La mère était calme, souriante. Le bonheur anesthésiait son ventre. L'utérus entraînait sa veille faire, les femmes autour s'en remettaient à lui sans maudire. Elle espérait une fille. Et cette seule pensée lui donnait le courage de la douleur. Les sages-femmes eurent juste le temps de franchir les portes de la salle d'accouchement, de lui ôter sa culotte sous la robe enfilée à la hâte. Le bébé naquit dans une disposition singulière. La jeune étudiante, qui arrivait en courant, le plateau d'accouchement en main, pleura devant le tableau. « Votre bébé est né dans sa poche », annonça la sage-femme. « Les membranes sont intactes. Le phénomène est rarissime, il porte chance. C'est encore un garçon ?» Une auxiliaire revenait déjà, l'appareil photo Polaroid en main, pour immortaliser la beauté de cette chrysalide transparente, gonflée d'une eau blanchâtre qui laissait apparaître la tête du bébé, ses mains contre son visage, encore paisible d'y être à l'abri. On dut libérer l'enfant de son cocon thermal pour découvrir la petite fente boursouflée qui provoqua chez la mère un écoulement de larmes heureuses, en même temps que le liquide amniotique s'étalait comme une vague sur la plage de draps à ses pieds.